Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et on est avec vous pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Je profite pour vous remercier en direct de me remplacer quand je prends quelques jours avec beaucoup de talent. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de Via, la voix du peuple. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, bonjour à vous.
Bonjour Valérie.
Et Luc Aveyran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly. Alors, bonjour Marine Valérie, Le Pen était ce matin chez nos confrères d'RTL. Elle appelle à former un gouvernement d'union nationale. Elle dit qu'ils sont prêts à accéder au pouvoir. On va revenir sur ces déclarations. On va revenir également sur les déclarations de M. Véran, notre ministre de la Santé. Est-ce qu'il faut en finir avec le masque en extérieur ? Et puis parler de la délinquance, encore et toujours, les quartiers aux mains des dealers. C'était Place Stalingrad à Paris, mais on a vu ce qui s'était passé à Valence. Les dealers sont toujours là, malgré les nombreuses déclarations de Gérald Darmanin. Nous ne laisserons pas faire, nous battrons contre les dealers. Force est de constater que la colline du crack existe toujours à Stalingrad, que les dealers ne sont pas contents quand on dérange leur petit trafic et qu'on semble bien impuissant. Bref, tous ces sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Coup de cœur pour vous, avec vous, Luc Aveyran.
Tout à fait. Un coup de cœur pour Carbios. Alors Carbios, qu'est-ce que c'est ? C'est une pépite verte, en fait, qui vient de lever 100 millions d'euros pour les procédés enzymatiques pour favoriser le bio-recyclage des matières plastiques. Donc ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment décisif.
Non, compliqué.
Anodin et compliqué, mais en réalité décisif pour peut-être arriver à une biodégradation des matières plastiques qui serait vraiment une solution. En fait, c'est une illustration de deux visions qui s'opposent en matière d'écologie. D'un côté, la vision qui tendrait vers le naturalisme, la décroissance, et l'autre vision à laquelle je souscris, qui est finalement et celle en quoi l'écologie peut être portée par le progrès technologique. Et bon, pour donner un exemple, par exemple, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais adjoint au maire à Neuilly. À Neuilly, qu'est-ce qui permet de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre ? C'est le secteur privé, en développant des solutions, par exemple, pour réduire la consommation énergétique des bâtiments. Et donc, on a vraiment besoin de ne jamais opposer, comme c'est souvent fait par l'écologie en réalité qui est teintée d'un peu de communisme, mais d'opposer secteur privé et cette solution-là, parce qu'en réalité, sans progrès technologique, nous n'arriverons pas à mener ce défi et à le relever.
Bon, très bien. Donc, c'est une entreprise française.
Oui, bien sûr. Située à Clermont-Ferrand, en plus, qui permet, là aussi, c'est important, d'avoir un équilibrage territorial. Et donc, il y a des entreprises comme ça, en réalité, il y en a beaucoup, et on n'en parle jamais, ou du moins, beaucoup. Enfin, de manière trop faible, et c'est pour ça que je voulais m'en faire l'écho ce matin.
Et Christine aussi, c'est un coup de cœur cocorico.
Oui, alors ma chère Valérie, pour nous cet été, à nous le fameux pompon, la marinière ou le caban de la Marine Nationale. Non, petit clin d'œil, c'est un article ce matin dans le Figaro, dans les pages éco, je trouve ça génial. C'est la Marine Nationale qui va lancer à partir de cette semaine le 6 mai, donc c'est de jeudi, sa propre ligne de vêtements, Made in France. Ce que je ne savais pas, c'est qu'effectivement la Marine nationale se considère comme, on va dire, le corps de l'armée le moins bien connu des concitoyens, ce qui est fort possible, alors que l'on sait qu'il y a des bases très importantes. Et donc cette ligne de vêtements va s'inspirer des vêtements de la Marine. Alors on retrouve évidemment le fameux béret avec le pompon et l'inscription 1626, qui est la date de création par Richelieu de ce corps d'armée. Et double effet également, l'idée c'est de faire appel aussi à un fabricant français. Donc c'est la maison Saint James qui va produire tous ces vêtements, parce que c'est une façon aussi de se raccrocher à une véritable envie, on va dire, des consommateurs et consommatrices de ce retour aux produits français, parce qu'on est chauvin, parce que c'est une garantie aussi pour nos emplois. Je crois que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais qui aujourd'hui commence à s'inscrire. Mais j'aime bien l'idée, de l'armée de s'ouvrir à travers une ligne de vêtements, parce que ils cherchent aussi à recruter pour leur corps militaire, dans tous les corps de métier, mais ils cherchent à recruter et c'est une façon d'attirer le public. Donc voilà, à partir du 6 mai, vous allez sur le site marinenational.gouv.fr si vous voulez voir.
Et acheter des vraies marinières, vraies marinières. Voilà, c'est
estampillé Marine Nationale, c'est la classe.
Voilà, c'est totalement la classe. Patrick Mignon, coup de gueule.
Oui, égratigné, vous en avez parlé, je crois, la semaine dernière, Vous savez, cette tribune dite des généraux.
Beaucoup parlé.
Et ce n'est pas de la tribune dont je vais parler, c'est de la réaction du ministre, de Mme Parly. Mme Parly, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion d'avoir à Air France, elle était directrice du secteur cargo. Le secteur cargo d'Air France était le troisième secteur, la troisième compagnie cargo au monde. Et elle a réussi à le flinguer totalement, au point qu'on a donné l'activité cargo à Martinair, filiale de KLM, qui est partenaire dans la fusion. Et maintenant, on n'a plus que deux avions cargo qui ne s'ouvrent même plus vers l'avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emporter des charges importantes. Mais c'est cette tribune-là, c'est sa réaction à la tribune qui m'a ému. Elle a écrit « Deux principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique ». Deux points, neutralité et loyauté. Alors, tout est juste là-dedans, sauf qu'il y a politique. Eh bien, je suis désolé, Madame Parly, mais non. Les militaires n'ont pas à être loyaux et neutres à l'égard du politique ou des politiques. Ils sont neutres et loyaux vis-à-vis de la nation, vis-à-vis du souverain, lequel souverain peut être un roi, un empereur, ou en démocratie et en république, le peuple français. Et par délégation, temporairement, le temps de son mandat, le président de la République, point à la ligne, même pas elle, ministre des Armées. Donc, je suis désolé, pour un ministre, se permettre de dire ça, c'est vouloir faire taire des voix légitimes, d'autant plus que les ministres, les généraux en question sont en retraite.
Pas tous, mais hier...
C'est vrai qu'il y en a qui ont signé. Mais vous savez que ces réactions, vous l'avez vu, j'ai regardé encore les chiffres ce matin, ils ont augmenté maintenant, je crois que c'est plus de 27 ou 30 000 signatures qu'il y a. Donc, on l'a vu. Voilà.
Patrick, on est obligé, c'est l'heure du journal, mais c'est vrai qu'on a vu que cette tribune avait été majoritairement soutenue par les Français.
Très rapidement, vous savez, Max Frisch a dit un truc qui est incroyable et qui est vrai. Il a dit « pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles ». Eh bien, je crois que ça fait référence à ce que Mme Pannier-Runacher avait dit. C'est pas les pantouflards, comme certains politiques. Et voilà.
Bon, on pourra en dire un mot. C'est l'heure du journal et l'heure, c'est l'heure. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Il s'en dit des choses, Aurore Antenne, il s'en dit. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA. La Voix du Peuple, Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, et Luc Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly. On va revenir sur les déclarations du ministre de la Santé qui se demande si nous allons bientôt pouvoir sortir sans masque en extérieur. On va parler de la délinquance des dealers où nous semblons bien impuissants. On va revenir sur ce qui s'est passé à Valence, à Stalingrad, où les dealers font la loi. Et à Stalingrad, ça s'est mal passé pour eux. Et puis Marine Le Pen qui estime qu'elle n'est pas loin du pouvoir et qu'elle pourrait former un gouvernement d'union nationale, en tout cas avec les LR. Elle s'estime LR compatible, mais en tout cas pas LREM. On va en parler, puis dire un mot aussi de revenir sur le coup de quoi ? J'arrive pas à trouver la suite. Le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre pour hier avec Renaud Muselier qui a formé une liste commune avec La République En Marche. Benjamin, justement, vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé avec Renaud Muselier.
C'est ça, alors coup de gueule, coup de cœur, coup de projecteur, on peut peut-être un petit peu mettre les trois sur ce sujet qui permettra de lancer un petit peu le débat. Je trouve que Renaud Muselier, finalement, a été cohérent avec ce que sont les Républicains, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté avec La République En Marche depuis maintenant 2017. On voit bien que Bruno Le Maire, Le Cornu, Madame Bachelot, Castex, Darmanin, bref, on en cite beaucoup, Édouard Philippe était déjà présent avec Emmanuel Macron, donc finalement, c'est la suite logique. Donc, ce ne serait pas un coup de gueule, finalement, contre Renaud Muselier. En revanche, c'est sur la méthode. C'est sur la méthode parce que mercredi dernier, sur l'antenne d'un de vos confrères, Renaud Muselier Barbier dit droit dans les yeux et droit dans le micro à votre consoeur, que jamais, en aucun cas, il ne fera un accord d'appareil avec La République En Marche. Et bing patatras, le dimanche, Castex, dans le JDD, nous annonce strictement l'inverse. Donc ce qui m'a gêné finalement dans cette histoire, ce n'est pas tant le choix politique de Renaud Muselier qui finalement est en train de sacrifier sa famille et de créer le schisme qui était tant attendu, mais plutôt sur la méthode où il se moque un peu des électeurs de PACA. Et moi, je suis plutôt dubitatif à me dire finalement, un électeur de droite de PACA, comment il va-t-il réagir? Est-ce qu'il va se dire, Muselier, c'est un mec bien, il a un bon bilan, du coup on va voter pour lui? Ou finalement, Renaud Muselier nous dit le tout et son contraire en l'espace de 6 jours, et donc est-ce qu'il est crédible? Et est-ce que le programme qu'il va porter sera tenu également? Quand la crédibilité de la parole politique est en jeu ainsi et mise à mal durant la campagne, il peut y avoir des doutes, et je pense que c'est à la fois un mauvais coup pour les Républicains, c'est une évidence, mais c'est aussi un mauvais coup pour Renaud Muselier. Ouais. Et puis enfin, je serais tenté de dire qu'il y avait peut-être un choix plus audacieux à faire, c'est un parti pris. Charles Pasqua disait à Jacques Chirac dans les années 90, Jacques, nous devrions nous associer avec le Front National, aujourd'hui il court après nous, tu verras, dans 30 ans, c'est nous qui courons après eux. Et bien voilà, nous en sommes arrivés, Charles Pasqua avait raison.
Ouais, les mêmes divisions, on va en reparler avec Marine Le Pen. Un mot quand même sur ce qui s'est passé ce matin au bureau des Républicains, ce matin au siège des Républicains. Christian Jacob, c'est notre confrère Benjamin Duhamel qui raconte ça sur Twitter. Christian Jacob dit à Muselier, tu as des amis malfaisants, visant notamment Estrosi. Réponse de Muselier, on m'a mis au banc, je n'ai pas d'amis dans la salle. Lui, il fait référence à Ciotti. Il y a ensuite Renaud Muselier qui dit, Christian, si on est dans la merde, c'est parce qu'il n'y a pas de candidat pour la présidentielle. François Baroin a parlé, on a l'impression d'un oracle, qui dit tu ne peux pas être celui qui met une balle dans la tête de la droite. Grosse pression, en tout cas ce matin, nous dit Benjamin Duhamel, pour que Renaud Muselier désavoue clairement Castex. C'est ce qui, ça s'est terminé là-dessus, et donc je ne sais pas si c'est ce qu'il fera.
Mais il aurait peut-être pu faire un live Facebook, parce que si tout est dit et su comme ça aux yeux de tous, je pense que la démocratie aurait tout à gagner à ce qu'il retransmette en direct.
Oui, LR exige que Muselier dénonce les propos de Castex et dise qu'il n'y aura pas d'accord avec La République En Marche. Réponse de Muselier, laissez-moi la journée pour répondre.
Je ne suis pas sûre que l'électeur suivre ça au centimètre près, et que ça, franchement, ça fait vraiment café du commerce.
Tambouille.
Quand on lit ce que vous racontez, Valérie, je plains l'électeur de PACA. Mais après, ces alliances, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je le dis et je le répète depuis l'annonce de Jean Castex. Il y a d'autres alliances sur d'autres partis, sur d'autres bords. Je pense que l'électeur, après, il fera son choix. Et une élection régionale n'est pas une élection nationale, départementale encore moins, municipale encore moins. Donc, je pense que tout cela, c'est de l'agitation. C'est qu'il y a une guerre de pouvoir aussi interne chez les LR. Mmh. Il y a une guerre de leadership aujourd'hui. Et que tout ça, effectivement, leur pose un problème. Parce que, imaginons que Renaud Muselier ait raison dans cette alliance. Imaginons. Donc, c'est vraiment la machine à perdre de tous les côtés, y compris à perdre. Et surtout, ce qui est très dommage, c'est les électeurs. C'est que, comme dirait ma grand-mère, une chatte n'y retrouverait pas ses petits là-dedans. Hein. Donc, c'est assez affligeant de voir que le débat tourne autour des personnes. Et pardonnez-moi, dans cette histoire, il n'y a que des histoires d'hommes. Il n'y a pas une femme.
Il y en a une qui est la grande perdante, c'est Sophie Cluzel, puisqu'elle a été éjectée de la liste.
Mais après, c'est vrai, Lucas, et je partage l'avis de Christine. Là, on se concentre vraiment sur la vie d'un parti politique. Mais en réalité, le scrutin des élections régionales. Non, mais le scrutin des élections régionales, c'est d'abord mener des exécutifs locaux avec des fortes compétences en matière de transport, en matière économique. Et finalement, je trouve que à phagocyter comme ça le débat avec une dimension nationale, on divague de l'essentiel du sujet. Qu'on laisse la responsabilité, surtout aux présidents sortants, de composer leur équipe. Gilles Platret, par exemple, il a décidé de faire alliance avec Debout la France. Si ça répond à une cohérence vis-à-vis du projet, grand bien lui fasse. Je pense que, et là où je rejoins Benjamin, c'est qu'effectivement, il y a un problème de méthode, c'est-à-dire de forme. On sait que la convergence entre Renaud Muselier et l'exécutif au niveau national, elle est présente, et ce, depuis de longues dates. Et finalement, c'est juste le volte-face qui surprend. Mais vous voyez Valérie Pécresse sur sa liste, elle est avec des membres de la majorité présidentielle, avec des membres d'Agir, avec des membres du Modem qui étaient dans son exécutif. Le projet territorial ne doit pas être confondu et phagocyté par un débat national.
Ouais, c'est ce qu'on disait hier, où est le programme, de quoi on parle là pour l'instant, on n'est que sur des querelles.
Mais c'est les Républicains qui décident d'axer sur cette dynamique-là. La fierté aujourd'hui des Républicains, c'est leur ancrage territorial, c'est la force de leur réseau d'élus locaux. Et on est en train, finalement, de les ramener à leur carence, qui est majeure, c'est leur absence de dynamique, de projection à l'échelle nationale. Qu'ils s'enorgueillent d'avoir, finalement, un réseau d'élus locaux avec... Aujourd'hui, c'est pas Renaud Muselier qui est derrière Sophie Cluzel. C'est bien parce que La République En Marche n'a pas de candidat et n'est pas en mesure d'avoir un candidat gagnant qu'elle est amenée à s'allier avec
Il n'était pas obligé, sachant que l'autre est dans un état de faiblesse. Il pouvait maintenir sa liste. Patrick Mignon.
Oui, ben écoutez, comme vous l'avez dit, hein, des petites soupes sur des petits feux. Mmh. Alors, je veux bien entendre que le scrutin est régional, local... Mais justement, les scrutins régionaux ont cette particularité qu'ils sont quand même à portée nationale, surtout depuis qu'on est passé aux très grandes régions, aux 13 très grandes régions. Et donc, et en plus, à un an de la présidentielle, ça a d'autant plus de valeur. Donc, vouloir le masquer, je trouve que c'est pas une bonne chose. Les électeurs là-dedans sont complètement oubliés, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Christine Bouillot. Très franchement, ça donne pas confiance pour la suite et pour la présidentielle. Ouais. Mais je constate aussi que les LR ont qu'à balayer devant leur porte, hein, parce qu'ils avaient un président, certes clivant, moi je ne suis pas électeur LR, enfin je ne suis pas membre des LR, ils avaient Laurent Wauquiez, qui n'est pas un mauvais président de région que je sache, on lui a tiré dans le dos, on l'a évincé, vous connaissez, vous souvenez de l'histoire, il était clivant, mais au moins il y avait une ligne. Depuis que c'est Monsieur Jacob, c'est pas une ligne. Enfin, plus exactement, c'est un ensemble de courbes. On ne sait pas dans quel sens ils vont. Ils vont dans le sens du vent. Et LR est en train de devenir un parti de feuilles mortes. C'est un peu la même chose aussi, je crois, pour Valérie Pécresse, qui a refusé de reconduire des sortants, notamment des sortants de notre mouvement conservateur, via en la personne de Nicolas Tardy-Joubert. Et elle reçoit l'accord et elle accepte. L'appui du Parti radical qui s'est déclaré très progressiste. Donc encore une fois, là aussi, vous allez voir arriver des problèmes, notamment pour cette région Île-de-France. Est-ce que LR est vraiment encore un parti de gouvernement national ou est-ce qu'ils ont simplement leur intérêt en local avec un grand nombre d'élus dans les municipalités? Voilà, ils se targuent d'être un parti de gouvernement, certes, ils ont des gens très compétents, sauf qu'ils ne démontrent pas, ils ne donnent vraiment pas envie. Et j'ai l'impression que si on leur confiait au niveau national la présidence, eh bien, est-ce qu'ils continueraient à faire ce genre de tambouille politicienne de bas étage?
Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas de candidat.
Ah, ouais.
Alors, on marque une pause et justement. Je vous donne la parole dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. Alors votre coup de gueule nous a emmené sur un débat un petit peu plus long à propos de Renaud Muselier. Ce que disait Christine Bouillot est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est microcosmique certainement dans les conversations des Français, sauf qu'il reste une trace que vous évoquiez tout à l'heure, il reste quand même une trace. Vous vouliez répondre à ce que disait Patrick Mignon.
Oui, à Patrick Mignon, puis à Christine, par rapport au fait que, effectivement, je suis d'accord avec vous, Christine, sur le fait que les régionales doivent parler des régionales, mais force est de constater que, par exemple, Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, a bel et bien mis en jeu sa candidature à la présidentielle en fonction des résultats des élections régionales, donc il a porté... un enjeu national sur les élections dans les Hauts-de-France. On voit bien que La République En Marche cherche à déstabiliser les Républicains en PACA parce qu'il y a un enjeu national. Et quand j'écoute et que je lis les programmes, par exemple, de Bayou en Île-de-France ou d'autres, on voit bien que les sujets exogènes à la région reviennent sur la table. Donc, sauvons la forêt amazonienne, pour moi, ce n'est pas un sujet dans les régionales, c'est un sujet d'envergure nationale. Comment on diminue nos gaz à effet de serre. Donc pour moi, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec les régionales en tant que telles. Et puis de l'autre côté, on a un Rassemblement National qui joue quand même le starting block de l'élection présidentielle en parlant d'immigration matin, midi, soir dans les régionales. Or, l'immigration dans les régions, moi qui suis originaire comme Christine de l'Occitanie, je ne pense pas que la région Occitanie va mettre des gardes de frontières à côté de Perpignan.
Alors, Lucas, puis après Christine.
Il y a aussi une difficulté, c'est que je pense qu'il y a une incompréhension ou une sous-estimation de ce qu'on appelle l'électorat La République En Marche. Parce que cet électorat-là, ce que je vous disais, c'est que finalement, à mon avis, il est très peu fidèle vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il est souvent, essentiellement, élu issu soit de la gauche, soit de la droite. Quand il est issu de la droite, en réalité, au scrutin locaux, il revotera pour les candidats de droite. Et quand la droite sera en mesure de structurer une offre politique cohérente, libérale, européenne, il reviendra vers cette droite-là. Aujourd'hui, il fait d'Emmanuel Macron un choix par défaut. Ouais. Objectivement, c'est le cas dans les Hauts-de-Seine. Alors effectivement, moi j'ai ma vision avec un électorat urbain, sans doute plus aisé, et forcément que ça concourt au débat, mais je pense que les Républicains courent un risque énorme en termes de valorisation de leur actif politique à se couper de cet électorat-là, qui constitue une base essentielle si un jour ils souhaitent réaccéder aux manettes.
Moi, je ne suis pas certaine que ce soit un bon pari pour Muselier. Hein. Je pense que Mariani peut récupérer pas mal de voix. Un auditeur nous dit que cette rage d'Emmanuel Macron à détruire tous les partis hors RN ou le sien est tout de même surprenante. C'est comme si le président préférait sacrifier la démocratie représentative et tout espoir de clarté idéologique au profit de ses intérêts personnels. Il dit pas un pour rattraper l'autre. Tout ça est d'un ennui, ça me semble inutile, vous m'avez chloroformé, désolé, c'est l'abstention qui gagne des voix avec ses élucubrations soporifiques.
C'est dramatique.
Et c'est vrai que moi je vois pas mal de nos auditeurs qui disent moi je ne revoterai pas Macron, donc ce sera l'abstention, et c'est vrai que ça peut, Christine, vous vouliez dire un dernier
oui,
mot.
Oui, ce que je veux dire, c'est pas un intérêt en vue de la présidentielle, c'est pas ça que je dis, c'est que simplement ce sont, comme à chaque élection, si on reprend les tablettes. Il y a toujours des on va dire, tant que les partis sont fragiles, les LR ont un problème de leadership, je le répète, personne n'arrive à prendre le lead sur ce parti aujourd'hui. Il y a plusieurs candidats qui se regardent dans le blanc des yeux pour savoir comment faire. Il y en a qui sont même en dehors, quand on voit un Michel Barnier qui revient tranquillement mais sûrement en tous les cas qui tente et qui essaye de voir, mais oui, Valérie, qui essaye de voir un peu ce que ça pourrait donner. Hein. On le sent bien dans ses articles. Enfin, il y a un plan comme derrière. Quand on voit aussi un Édouard Philippe qui est là.
J'ai envie, ça donne envie.
J'ai envie. Il y a Édouard Philippe qui fait un livre et qui ne parle pas de politique, mais il est tellement présent. Enfin, tout ça fait qu'on sent qu'il y a un...
Édouard Philippe nous parle de manette.
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Il ne parle pas de la France, il parle de manette. C'est très étrange.
Oui, il parle de lui. Il parle beaucoup de lui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour l'électeur, là, l'électeur, il voit à 2 mois, à 1 mois, là, aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, il y aura derrière des résultats qui permettront à certains candidats de continuer l'aventure ou pas. C'est un peu comme dans un jeu télévisé. Mais pour les électeurs, ça sera vraiment une autre paire de manches.
Oui, moi, c'est ce que je pense. Ce matin, Marine Le Pen a plus ou moins officialisé le lancement de sa candidature au présidentiel. Elle en appelle à tous les électeurs pour accéder à l'Élysée. Écoutez ce qu'elle disait, c'est chez nos confrères d'RTL.
J'ai fait appel à tous les électeurs, Madame Venture, à tous. Car encore une fois, ce que je souhaite, c'est faire un gouvernement d'union nationale. Et par ailleurs, un gouvernement de paix civile pour sortir du désordre dans lequel Emmanuel Macron nous a jetés. Donc je souhaite faire appel à tous les Français et leur dire que tous ceux qui se retrouvent autour de la grande idée de nation et des protections qui sont celles de la nation, les frontières, la défense de l'identité, le retour de la prospérité par un modèle économique qui respecte notre environnement et qui soit en même temps fondé sur le localisme, tout cela nous peuvent et doivent nous rejoindre. Et c'est sur la base de ce projet cohérent que nous gagnerons les élections et que nous changerons, encore une fois, le cours de la destinée triste qui est celle de notre pays.
Alors, elle veut une union nationale, mais elle a déjà du mal à faire des alliances au régional. Patrick Mignon, cette déclaration.
Oui, bien sûr, elle lance sa campagne... Mais c'était le sujet que vous vouliez lancer. Est-ce qu'elle est capable d'avoir un gouvernement d'union nationale? Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on pose la question, parce que ça voudrait dire que son élection n'est pas légitime. Si elle est élue, c'est qu'elle a acquis une majorité. Alors effectivement, s'il y a 50-60% d'abstention, comme on a vu dans certains scrutins, on se pose toujours face à cette abstention massive la notion de légitimité, sauf que il y a quand même, on est obligé d'avoir un président, donc si les gens veulent pas aller voter, ça les regarde, mais il faut pas qu'ils viennent se plaindre après. Nous, on essaye de les motiver, dans tous les partis politiques d'ailleurs, on essaye de motiver les électeurs pour son propre camp. Si les gens ne se motivent pas, ils se motivent pas. Et si Madame Le Pen est élue, je rappelle quand même que Jacques Chirac je crois, quand il a été élu en 2002, où le père de Mme Le Pen était au second tour, Jacques Chirac avait fait, je crois, 19 ou 20% au premier tour, ce qui était très peu compte tenu du taux d'abstention. Donc, alors après, il gagne avec 80 parce que c'était un truc très particulier. Mais en fait, un candidat, leur objectif, c'est toujours d'arriver au second tour pour espérer gagner face à un candidat qui sera moins bon qu'eux. C'est pas faire l'adhésion des Français. Et Madame Le Pen, alors, elle lance sa campagne très bien. Est-ce qu'elle sera capable d'avoir un gouvernement? Ben, j'espère, parce que si les Français la mettent à la tête de l'État français, il faut bien qu'elle soit en mesure de gouverner, qu'elle ait des gens qui le fassent avec elle, et qu'elle ait des députés qui soutiennent l'action du gouvernement. Sinon, c'est tout notre système démocratique et toute la Constitution qui est à revoir. Voilà. Alors, si par contre, ce genre de question présuppose qu'il y aurait des candidats autorisés puis des candidats non autorisés, là, on a un gros problème démocratique, par contre. On ne peut pas jouer comme ça. Je veux dire, ou un parti est légal et il a le droit de citer, ou il est interdit, est dissous, et il ne présente pas de candidat.
Xavier nous dit, je n'ai pas voté pour lui, j'irai à la pêche au second tour, on n'est pas motivé à cause de toutes ces tambouilles, pour ne pas dire magouilles. Autre auditeur, moi à 60 ans, qui suis de gauche, j'ai voté Macron au deux tours, je me suis fait avoir, je voterai écolo, et ne pas oublier. Christine ?
Oui, alors, pour revenir à l'idée de gouvernement d'union nationale, alors, c'est pas nouveau, elle l'a déjà dit il y a plusieurs semaines, et c'est un sujet qui est dans l'axe de travail de sa campagne. Moi, ça me fait penser un peu au en même temps, parce qu'en fait, quand on lit les déclarations que Marine Le Pen a pu faire, c'est que, tout simplement, on propose d'aller chercher le meilleur du meilleur partout pour tous ceux qui veulent sauver le pays. Bon, visiblement, c'est plus compliqué que ça, déjà dans le casting, puisqu'elle a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait sa nièce dans le... Donc ça me pose un... Enfin, si ça pose pas de problème aux électeurs, tant mieux, mais c'est vrai que d'avoir l'oncle, la nièce, le cousin, la cousine, dans un... ça s'appelle... On sait comment ça s'appelle, donc ça c'est un peu compliqué. Puis après, dans ce qui est dit, je pense qu'il faut aussi décortiquer le fait que, pour l'instant, j'entends que ça ratisse un peu large dans tous les sujets. On va piocher un peu sur l'aile gauche, on va dire qu'on va rétablir l'ordre, qu'on va tout faire, en fait. Je vois pas où est la colonne vertébrale aujourd'hui. Il y a une colonne vertébrale qui a disparu, donc je pense que c'est de vouloir ratisser comme ça, un peu gratis et large, ça peut aussi avoir un effet boomerang sur certains sujets où finalement on n'apparaît pas super crédible. Donc je vois difficilement comment proposer ce gouvernement du non-national, à part dire, voyez, j'ouvre mes portes et je suis un parti respectable, et venez me voir, et nous allons régler tous les problèmes de la France. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué.
Benjamin ?
Oui, sur un plan stratégique, moi je la trouve plutôt cohérente, et j'ai même envie de dire que ça serait peut-être de sa part une volonté de montrer qu'elle est humble, sans partisanisme aucun, je m'explique. Elle a compris qu'elle ne gagnerait pas seule. Et donc du coup, elle sait qu'elle peut atteindre un certain score assez élevé au premier tour, mais elle sait très bien que le second tour va être compliqué pour elle si elle souhaite accéder à la fonction suprême. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas, je pose la question, est-ce que ce n'est pas finalement une preuve d'humilité en disant j'ai bien compris que je ne gagnerai pas seul, vous savez très bien que moi j'ai un leadership, une popularité, une notoriété qui peut écraser certains autres leaders, mais que pour le coup, j'aurai besoin de beaucoup d'autres personnes pour pouvoir gouverner.
Ils viendront le jour où,
je vais faire un parallèle avec ce que Éric Ciotti a déclaré hier matin chez Sonia Mabrouk sur Europe 1, en disant finalement la différence entre le Rassemblement National et les Républicains aujourd'hui, c'est l'histoire. Effectivement, d'un côté, il y avait les gaullistes historiques, et de l'autre côté, un peu les généraux qui battaient les gaullistes, mais n'oublions pas que le général de Gaulle a absous ses généraux, et donc la paix et la concorde civile avaient été posées par le général de Gaulle. Donc l'histoire finalement s'estompe, parce que l'électorat jeune de Marine Le Pen, notamment, on n'a rien à faire de l'histoire des généraux ou du général de Gaulle, soyons clairs. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en termes de valeurs, lorsqu'on parle d'islamisme, de communautarisme, de problèmes de sécurité, de contrôle des flux migratoires et de souveraineté industrielle, économique, je crois effectivement que ce soit Marine Le Pen, Éric Ciotti, Retailleau, Dupont-Aignan, Éric Zemmour, sont des gens qui disent finalement la même chose.
C'est pas de la tambouille politique qu'on vient dénoncer dans l'affaire de...
Non, Christine, pour moi, c'est pas de la tambouille politique. Je pense justement qu'elle a joué carte sur table. Alors, encore une fois, aucun parti pris de ma part. Hein. Je suis vraiment dans l'analyse. Je pense qu'elle essaye d'élargir sur quelques points de convergence sur les sujets que je viens de citer.
Je suis d'accord avec l'intérêt de la posture d'humilité. Néanmoins, j'ai un problème avec le terme d'union nationale. Parce que l'union nationale, ça suppose deux choses, selon moi. Une personnalité d'envergure, qu'aujourd'hui, elle n'est pas en mesure d'incarner. Elle se trompe souvent sur les chiffres, hein, ce qui, à mon avis, est une difficulté. Elle n'a pas une dimension historique forte d'une légitimité, d'un parcours spécifiquement originel. Des circonstances exceptionnelles en matière de temps, ça, on pourrait considérer que c'est caractérisé, mais ça reste à prouver. Et puis, deuxièmement, en fait, sa capacité à fédérer, elle se tourne objectivement vers la droite. On pourrait reprendre un peu la trilogie des trois droites de René Raymond. La droite légitimiste, qui est déjà chez elle. La droite bonapartiste, qu'elle est en mesure, donc les républicains actuels, pour faire court, qu'elle pourrait fédérer. Mais il lui manque, et ça durablement, définitivement, la droite orléaniste. Celle qui pense qu'effectivement, et je sais qu'il y a une tentative de minimiser la puissance de cet électorat-là, mais elle ne pourra rien faire sans ces personnes-là. Et ces personnes-là se rendent compte qu'aujourd'hui, elle n'est pas une solution, elle est un problème.
Allez, on se retrouve dans un petit instant. On va parler des masques en extérieur. Est-ce que bientôt, nous pourrons sortir sans masque ? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Christine Bouillot, Patrick Mignon, Benjamin Cauchy et Lucas Véran. Alors Olivier Véran a dit ce matin espérer pouvoir mettre fin aux gestes barrières et au port du masque en extérieur d'ici cet été. Écoutez.
Je ne peux pas vous donner de date aujourd'hui, ce ne serait pas honnête de ma part. Mais je peux vous promettre que quand la date qui nous permettra d'envisager sereinement la fin des gestes barrières, de nous retrouver, d'arrêter la distanciation sociale, d'enlever le masque sera arrivée, nous n'attendrons pas 24 heures. Mais nous le dirons immédiatement.
Bon. Ça risque d'être...
J'espère que ce sera cet été. J'espère sincèrement que ce sera cet été. Mais...
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, Stalingrad, les quartiers aux mains des dealers. Ce week-end, des habitants du quartier de Stalingrad à Paris, dans le 19e arrondissement de la capitale, auraient tiré à deux reprises des mortiers d'artifice en direction des consommateurs de crack pour les chasser. C'est vrai que c'est devenu intenable. Les riverains n'en peuvent plus de ces nuisances. Il ne se passe rien. Je vous rappelle quand même que Gérald Darmanin avait déclaré en août 2020 « Ce sont les trafiquants qui vont arrêter de dormir ». La semaine dernière à Lille, les trafiquants ne gagneront pas. Il avait également déclaré vouloir interdire la vente de mortiers en octobre 2020 et forcé de constater toujours qu'à Valence et ailleurs, il y a eu des affrontements et qu'il y en a tous les soirs des tirs de mortiers. Cet épisode de Stalingrad qui n'est pas le premier mais qui augure peut-être de la création de milices privées, d'autodéfense et ça c'est à Paris en plein milieu de la ville, qu'est-ce qui va se passer dans les banlieues ?
Bah clairement, ça ressemble ni plus ni moins à un début de, je dis pas de guerre civile, mais d'absence totale de présence de l'État et d'impuissance totale de l'État. Donc si Monsieur Darmanin, le ministre du tweet, communique à tout va, est censé avoir détecté je ne sais plus combien de points de deal, 1200 points de deal, ce qui me paraît absolument minuscule, c'est quand même l'abandon de l'État de ces quartiers. Et effectivement, les citoyens, que ce soit à Stalingrad ou encore hier à Montgeron, il y a des policiers qui sont fait attaquer au tir de mortier. À Vigneux-sur-Seine, il y a une policière qui a été pourchassée par des gens en scooter. Bon, bref, un peu partout en France, ça explose. Et entre le discours prononcé de Monsieur Darmanin qui dit qu'il va y avoir 10 000 policiers de plus, c'est bien, mais il va falloir les former. Et donc ça va mettre du temps. Et en attendant, les Français, ils veulent des réponses. Et comme il n'y a pas de réponse, comme il n'y a pas de force de l'ordre mobilisée sur le terrain suffisamment, eh bien les Français se débrouillent par eux-mêmes. C'est une catastrophe, mais pour moi, c'est malheureusement une faille dans notre République.
Ouais. Ah oui, évidemment.
Oui. Alors, Patrick
Moi, tout d'abord, je voudrais rendre hommage aux policiers, aux forces de l'ordre, aux gendarmes et aux douaniers également, parce qu'on ne parle pas trop d'eux. Ce sont des gens qui ont aussi des risques physiques lorsqu'ils interviennent sur les go-fast et sur tous ces trafics de drogue et cette économie parallèle. On est un pays sous-équipé, sous-développé en hommes et en matériel à ce niveau-là. Et puis également sous-développé et sous-équipé en justice pénale, hein, parce qu'on n'a pas les places de prison qu'il faut pour garder les gens au frais, pour exécuter les peines auxquelles ils sont parfois condamnés quand il n'y a pas trop de laxisme de ce côté-là. Et en fait, on est face à une économie parallèle qui est plus importante que l'économie légale. Et du coup, vous savez, on a déjà vu ça. Il ne faut pas être grand devin. On a vu ce qui s'est passé avec les frères musulmans dans tous les pays dans lesquels ils se sont implantés. Les frères musulmans avaient créé une économie parallèle. Elle n'était peut-être pas fondée sur la drogue, mais on sait qu'en France, en tout cas, il y a des liens très marqués, ça a été montré, entre l'islamisme radical, les réseaux salafistes et l'économie parallèle de la drogue, et puis des autres trafics d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la drogue en termes de trafic, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic d'organes. Donc très franchement, cette économie parallèle, elle est très grave et très dangereuse pour notre pays, parce que quand l'État est défaillant, comme vient de le dire Benjamin Cauchy, eh bien, eux ont les moyens de se substituer à cet État. Et on a vu apparaître dans les pays dans lesquels je viens de parler avec les frères musulmans, on a vu apparaître des hôpitaux financés par ces frères musulmans, on a vu apparaître du social, on a vu apparaître des subventions qui étaient données, des écoles, de l'éducation. Ce qui était le domaine de l'État était pris en charge par l'économie parallèle qui s'était développée.
On n'est pas dans un pays salafiste.
L'économie de la drogue est une économie qui est plus riche.
Bien sûr, elle est plus riche.
Ils vont supplanter l'État.
Oui, sauf que c'est une réponse compliquée à apporter. Quand vous dérangez le trafic, c'est pas sans conséquences non plus. Donc la solution, elle est pas évidente à trouver, Christine.
Oui, en plus de ça, souvent quand en plus de ça, il y a des émeutes. Alors j'aime pas Benjamin parler de mots de guerre civile, parce que c'est une guerre civile. Je pense pas en avoir connu ici, mais c'est des moments de tension dans les quartiers où les bandes rivales se disputent les points de deal entre eux finalement, et donc il y a des dégâts collatéraux comme à chaque fois malheureusement, mais c'est un puissant fond, parce que globalement ce problème de la drogue dans les quartiers, c'est ni plus ni moins qu'un sujet que l'on traîne comme un boulet
depuis 40 ans.
Ça date pas de Gérald Darmanin ni d'Emmanuel Macron. On a laissé tout ça tomber. Combien de milliards a-t-on mis dans les quartiers pour essayer d'arranger les choses, le quotidien des gens, et l'immense majorité des gens qui habitent dans ces quartiers n'aspirent qu'à une chose, c'est de vivre tranquillement aussi. J'aimerais quand même le rappeler et expliquer ce qui se passe. Ensuite de ça, je rejoins ce que dit Patrick, c'est que vous avez 150 000 policiers, 150 000 gendarmes qui sont chargés de beaucoup de choses, de beaucoup de missions, et donc c'est particulièrement compliqué. Et la difficulté supplémentaire, c'est que même si vous éteignez un point de deal, dans l'heure qui suit, il y en a un autre qui se crée, puisqu'il y a des consommateurs au bout. Donc il y a effectivement la source, et on va dire il y a l'estuaire, c'est-à-dire le consommateur aussi qu'il faut savoir gérer. Et que je sache, la France est un gros consommateur de stupéfiants. Enfin, nous Français, dans notre immense majorité, des consommateurs. Donc qui dit consommateur dit entreprise pour pouvoir les fournir. Et par conséquent, vous avez un double enjeu. Et en plus, ça alimente des réseaux clandestins, des réseaux de trafiquants, tout ça c'est à l'échelle internationale, donc c'est un travail qui est colossal aujourd'hui, et nous n'avons pas encore mis les moyens pour lutter contre ça.
Mais il y a des choses qui paraissent quand même évidentes. Je vois à Paris, dans certains quartiers, je pense que c'est un petit peu partout, des gens qui vendent des contrefaçons de cigarettes, des cigarettes à la sauvette. Tout ça, au vu et au su, vous allez me dire, c'est pas très grave. Sauf que si, c'est un marché parallèle, illégal, rien n'est fait. On a un auditeur qui habite visiblement dans le quartier de Stalingrad. Des semaines, des mois qu'on alerte que les habitants hurlent leur détresse. Quelle faillite de voir que ce sont eux qui sont obligés de se défendre, Lucas.
Je trouve que Christine pointait un point vraiment intéressant et majeur. Alors, il y a les questions sécuritaires auxquelles vous avez tous dressé des solutions assez effectives, réponse pénale, construction des places de prison. Bien sûr, l'arsenal, il doit être beaucoup plus dense, beaucoup plus fort et beaucoup plus autoritaire
et appliqué.
Mais il y a un deuxième débat, et je trouve Gérald Darmanin un peu surprenant, pour pas dire déplacé dans la manière d'un peu d'appréhender cette question-là, sur que fait-on des consommateurs et qu'en fait-on du marché tel qu'il s'est constitué. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dépénaliser, de légaliser, d'amener vers des modifications de la législation actuelle qui permettent finalement d'accompagner les consommateurs vers une sortie ou vers une normalisation de leur consommation. Autrement dit, aujourd'hui, comme l'a rappelé Christine, la France est un des pays qui consomme le plus de cannabis, alors que c'est là où il y a quasiment la répression la plus importante, avec des amendes forfaitaires à répétition. avec tout un ensemble de choses. Est-ce que l'on ne pourrait pas tenter, comme ça s'est fait au Portugal, une dépénalisation avec un vrai accompagnement sur les publics qui sont consommateurs?
Il y aura d'autres trafics, il y aura de la cocaïne, il y aura le crack, il y aura une autre forme de délinquance.
Enfin, j'ai l'impression qu'on...
C'est les délinquants qu'il faut...
Assurément, ouais. Assurément. Néanmoins, je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur la pertinence du débat. Comment fait-on pour tarir les ressources de ces trafics-là ?
Vous contrôlez les frontières, vous vérifiez l'entrée des marchandises sur le territoire à tous les points de frontière. Basta.
Ouais. Ben, je vous propose, Christine, Benjamin, alors, au niveau du Pertus, vous arrêtez tous les camions comme hier, où j'étais, ouais. Et il y a à peu près 25 km de bouche de camions.
Mais
il n'y a pas de problème. Et vous contrôlez camion après camion.
Écoutez,
et vous allez
Christine,
voir si vous allez avoir votre téléphone
Christine,
dans vos toilettes quand vous
Christine,
commandez.
Si un jour j'ai mon fils qui meurt d'une overdose, je pense que j'aurais préféré qu'il y ait 25 km de bouchons à la frontière.
Mais non, ni l'un ni l'autre.
Non, en fait, non c'est qu'il ne touche
pas
au
premier abord.
Il ne faut pas
que le gamin meure, il ne faut pas qu'il y ait 25 km de bouchons, non. Il faut y mettre les moyens.
Voilà.
Je rappelle qu'on a désarmé les citoyens. Ce que vous avez dit, Valérie, c'est-à-dire des citoyens de Stalingrad qui sortent, qui eux aussi vont acheter des mortiers et qui commencent à tirer sur les dealers et sur les consommateurs de crack. C'est un retour à ce que la société civilisée avait éradiqué, c'est-à-dire un port d'armes individuelles, les épées à la ceinture, et chacun s'auto-protégeait.
Donc vous êtes quoi en train de dire ?
Aujourd'hui, on a donné aux gendarmes le pouvoir et la force légale en s'en débarrassant, en s'en dessaisissant au niveau des citoyens. Sauf que ça veut dire comme corollaire que l'État doit y mettre le paquet. Parce qu'on ne s'est pas dessaisi de cette protection qu'on avait individuellement au profit d'un État qui laisse faire les trafics et qui ne rentre pas dedans. Donc, pour éviter les 25 km de bouchons, il faut y mettre des douaniers et des points de contrôle et des rayons X, comme on sait faire avec les conteneurs dans les aéroports. Et il faut tomber à bras raccourcis sur tous ces dealers et pas seulement les dealers de drogue. Par contre, je ne crois pas, Lucas, je ne crois pas à la dépénalisation du cannabis parce que c'est transporter le problème ailleurs.
Non, certainement que je dis pas que la dépénalisation et la légalisation, elle est la solution aux difficultés sécuritaires que l'on rencontre. Je dis que en termes, Benjamin l'évoquait, mais de consommation et d'attitude face à la consommation de stupéfiants, l'état de fait actuel est tout à fait insatisfaisant et qu'il y a des solutions qui ont marché dans nos pays voisins, qui avaient une consommation, qui ont réussi à la diminuer avec d'autres solutions.
Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres infos. Bonne journée.